Le magazine des Nations Unies.
Au sommaire de ce magazine, cette semaine a été riche en événements politiques à Kinshasa. Meeting de l'opposition à la place Sainte-Thérèse, lettre de groupe 7 de la majorité au président de la République et la rupture de contact entre l'UDPS et le PPRD. À la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, les journalistes sont revenus sur ces sujets pour avoir la lecture de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est la grande actualité de ce magazine. La RDC met les caps sur le programme Accès pour tous à l'énergie durable. Le PNUD lui apporte son appui dans ses processus et estime qu'avec son potentiel, le pays peut atteindre les objectifs de ce programme à l'échéance 2030. Dans cette édition, vous suivrez un expert de cette agence onusienne pour plus d'éclairage sur l'initiative énergie durable pour tous. Enfin, plus de 3000 nouveaux réfugiés centrafricains affluent au nord Ubangi, fuyant le combat dans leur pays. Le HCR tente de les relocaliser, mais le financement fait défaut. D'où l'appel lancé par cette organisation onusienne aux bailleurs de fonds et aux hommes de bonne volonté. Les détails avec le porte-parole adjoint du HCR RDC dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche chez vous. La semaine qui s'achève a été émaillée à Kinshasa par une série d'événements politiques, tous liés au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les meetings de l'opposition à la place Sainte-Thérèse à Ndjili, qui s'est terminé dans la violence, la lettre du groupe de 7 partis de la majorité présidentielle adressée au président de la République, ainsi que la rupture du dialogue entre le PPRD et l'UDPS. Ces sujets ont été au centre des préoccupations des journalistes au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa le mercredi dernier. Des journalistes qui voulaient connaître la position de la MONUSCO et de sa section de droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Condensé d'Honoré Missenga Kalala.
Le rassemblement de l'opposition à la place Sainte-Thérèse de Ndjili a été attaqué lundi dernier par un groupe de jeunes gens. Pour le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ce qui s'est passé au meeting de l'opposition est tout simplement inacceptable et constitue en même temps un échec. José Maria Ranaz, directeur du Bureau conjoint, à partir de Goma.
En tout cas, c'était une opportunité perdue de démontrer qu'il y a la liberté d'association et de manifestation de tous les partis politiques et sympathisants à la RDC. Ce qui s'est passé hier, c'est triste. Il y avait un échec de donner la protection à une activité politique légale et qui a finalisé avec une interruption violente et avec les citoyens blessés par la violence politique. Il faut condamner ça.
Autre préoccupation de la presse, la troisième lettre du groupe des 7 de la majorité présidentielle adressée lundi 14 septembre au président de la République. Pour le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, la démarche de ce groupe de la majorité est une dynamique dont il se félicite.
Cette lettre du G7, ce groupe de responsables politiques appartenant à la majorité présidentielle qui, pour la troisième fois, ont écrit au président de la République pour lui faire part de leurs préoccupations. Je pense que d'abord, il faudra se féliciter de cette dynamique. Ça veut dire au moins qu'on voit que toutes les sensibilités peuvent s'exprimer, en tout cas de mettre sur la table leurs préoccupations. Deuxièmement, vous avez parlé un peu de la position de la MONUSCO par rapport à tout ça. Évidemment, vous savez, au moins nous nous accordons sur une chose, c'est que c'est le respect de la constitution congolaise. Et je pense que vous conviendrez tous avec moi que ceci est un impératif pour pouvoir avoir un climat apaisé, pour pouvoir avoir des élections futures apaisées.
Enfin, au sujet de la rupture des contacts entre l'UDPS et le PPRD en prélude du dialogue, la MONUSCO estime qu'il ne faudrait pas réduire le cadre à ces deux entités politiques. Il faudrait plutôt, dit son porte-parole, créer un espace politique pour que le dialogue se poursuive et permettre ainsi aux uns aux autres d'exprimer leurs préoccupations et d'aller à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? Félix Prosper-Bass.
L'essentiel, c'est la mise en œuvre du jeu démocratique en République démocratique du Congo, ce que la MONUSCO soutient de tout cœur.
Et le porte-parole de la MONUSCO de rappeler que l'engagement de son institution auprès de la RDC n'est pas un fait du hasard. Il a été fait à la suite de la requête du gouvernement congolais, membre à part entière des Nations Unies, qui s'est adressé à d'autres membres de l'Organisation mondiale pour lui venir en aide dans la crise que traverse ce pays.
Autre actualité cette semaine, c'est l'annonce jeudi dernier par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, d'une série de mesures visant à mettre fin aux abus sexuels commis par les personnels onusiens déployés en mission sur le terrain. Il l'a dit à l'occasion d'une réunion avec les pays fournisseurs de contingents aux missions de la paix de l'ONU. On écoute Ban Ki-moon dans ce propos traduit par un confrère de la radio des Nations Unies.
First, we must work to prevent...
Premièrement, nous devons empêcher toute faute grave avant le déploiement du personnel sur le terrain. Deuxièmement, nous devons passer le personnel au crible. Aucune personne ayant été poursuivie par un cas d'abus ou d'exploitation sexuelle ne peut servir les Nations Unies. Troisièmement, faire des enquêtes rapides et efficaces. Quatrièmement, s'assurer que justice soit faite. Cinquièmement, vérifier la responsabilité financière. Sixièmement, renforcer l'assistance aux victimes. Ceci est capital. Enfin, produire des rapports solides. Je n'hésiterai pas à rapatrier des contingents entiers ou mettre un terme à des déploiements si la chaîne de commandement fait défaut.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La République démocratique du Congo prépare son programme d'investissement du projet Accès pour tous à l'énergie durable. Pour répondre à la proposition du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, celle de l'initiative Énergie durable pour tous. Un atelier organisé par le ministère de l'énergie et ressources hydrauliques s'est tenu le 11 septembre 2015 à Kinshasa. Dans ce cadre, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD apporte son appui au gouvernement congolais dans la réalisation de ce projet dont l'échéance est 2030. Nous recevons dans ce magazine Monsieur Idesbald Chinamula. Il est conseiller au programme Changement climatique et énergie au bureau du PNUD RDC à Kinshasa. Il s'entretient avec Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Idesbald Chinamula, bonjour.
Bonjour.
Le PNUD appuie la RDC dans la mise en place d'un agenda et d'un programme d'investissement pour répondre à l'initiative Énergie durable pour tous. C'est quoi l'initiative Énergie durable pour tous?
L'initiative Énergie durable pour tous est une initiative lancée par le secrétaire général des Nations Unies pour mobiliser les politiques et tous les différents acteurs du développement dans les défis de la lutte contre la pauvreté. En effet, il a été constaté que les pays n'avancent pas beaucoup dans leurs programmes de développement qui sont mis en place simplement parce qu'il y a un déficit en termes énergétiques. À ce jour, au XXIe siècle, à l'ère de la révolution industrielle et révolution technologique, la plupart des pays malheureusement continuent toujours de recourir aux technologies traditionnelles en ce qui concerne l'énergie, notamment la biomasse énergétique qui représente pour la RDC 92% du bilan énergétique. À ce stade, aujourd'hui, ça veut dire quoi? La biomasse énergétique, c'est le charbon de bois, c'est le bois de fée, c'est cela qui constitue l'essentiel de la consommation énergétique en RDC. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce sont des situations quasiment inacceptables.
Alors, quels sont les objectifs de cette initiative du secrétaire général?
Les objectifs, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment en ligne droite avec les objectifs de la lutte contre la pauvreté. Je vais vous donner quelques exemples. On vient de faire la revue des OMD pour la République démocratique du Congo. OMD, c'est Objectif du millénaire pour le développement. On a constaté, par exemple, qu'on a fait suffisamment de progrès sur les OMD 2, 3, 4, c'est-à-dire l'éducation, la parité du genre à l'éducation, la question des femmes assistées médicalement dans l'accouchement, la question également des vaccinations. On a fait beaucoup de progrès. Par contre, l'OMD 1 sur la lutte contre la pauvreté, on n'a pas fait suffisamment de progrès, malgré tous les cadres et les politiques formulées. Et là-dessus, on constate effectivement que la question de l'énergie a été marginalisée dans la mise en œuvre des OMD, surtout au niveau de l'OMD 7 qui concerne l'environnement, changement climatique. Et donc ça, c'est une des leçons qu'on vient de tirer dans cet exercice en faisant des recommandations que dans la perspective des ODD, Objectifs de développement durable, qui va succéder donc aux OMD, qu'on puisse mettre l'énergie au centre. Le secrétaire général des Nations Unies avait anticipé quasiment cette situation en préconisant effectivement la question de l'énergie qui a des ramifications, des liens avec tous les secteurs de développement. Avec l'énergie, on va éclairer les villages, les hôpitaux, les écoles. Avec l'énergie, on va promouvoir la petite transformation. Avec l'énergie, on va diversifier l'économie. Et ça, ça fait défaut. Vous savez que la croissance de la RDC est portée à 50-60% par l'industrie primaire et extractive. Il n'y a pas une petite industrie et par manque justement d'énergie.
Et le PNUD a aidé le gouvernement à mettre en place ce que vous avez appelé l'Atlas des énergies renouvelables. C'est toujours dans le cadre de ce programme Initiative Énergie Durable.
Le PNUD est très très engagé depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Le PNUD accompagne la RDC dans son ambition effectivement d'être un leader sur les questions énergétiques. Donc la première chose c'est effectivement essayer de faire un état de lieu. On a aidé les pays à réaliser son état de lieu province par province et cet état de lieu a conduit à l'élaboration de l'Atlas des énergies renouvelables qui en fait recense les potentiels globaux du pays et identifie, localise environ 780 sites pour le développement des sites hydroélectriques, c'est-à-dire des solutions décentralisées. Dans les 145 territoires de la RDC, c'est possible. L'Atlas est en train de promouvoir un nouveau business en RDC pour montrer que la RDC, c'est pas seulement les secteurs miniers, c'est aussi les marchés de l'électricité. Il est possible de faire du business dans les secteurs de l'énergie et c'est largement décentralisé au-delà des INGA qui étaient les seuls site énergétique connu en RDC.
Donc chaque territoire en RDC a son potentiel énergétique.
Chaque territoire dispose de quoi répondre à ses besoins énergétiques. L'Atlas l'a démontré et donc aujourd'hui avec les 26 provinces également, on est en train de faire une mise à jour de cet Atlas et chacune de ces 26 provinces aussi a les potentiels nécessaires pour répondre à ses besoins.
Alors je reviens au programme Initiative Énergie Durable pour tous. Il s'agit dans le cas présent d'un projet qui porte à la fois sur un agenda, un programme à mettre en place. Comment peut-on comprendre les deux concepts, agenda et programme?
L'agenda, c'est en fait comment on va articuler la mise en œuvre de l'initiative énergie durable pour tous. Un agenda, c'est on doit par exemple se fixer un horizon temporaire. Et là-dessus, la RDC est clairement en train de se prononcer pour 15 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2030. Et on va probablement aller vers 3 quinquennats, 2016 à 2020, 2021, 2025 et puis 2026-2030. Et pour chaque quinquennat, il y aura bien sûr des objectifs qui seront fixés. C'est ça l'agenda du pays, les cadres à mettre en place, les structures et puis quels sont les programmes effectivement qui vont être mis en œuvre pour chaque quinquennat qui va être fixé. Quelles sont les cibles et les objectifs qu'on fixe pour chaque programme.
Et vous pensez que dans cette échéance de 15 ans, la RDC peut atteindre ses objectifs?
La RDC peut avancer suffisamment. Comme je l'ai dit, la RDC dispose d'un potentiel énorme, dispose de beaucoup d'atouts, un potentiel qui est largement décentralisé, à portée de chaque territoire, et puis c'est des ressources qui sont facilement mobilisables. Et si on fait cela en boucle, on pourra alimenter toute la RDC. Donc c'est possible effectivement pour la RDC d'avancer et donc de se fixer des objectifs ambitieux.
Donc pour la RDC, il faut absolument aller au-delà de INGA.
Oui, bien entendu, ça c'est clair, ça c'est un message clair qui est donné, qu'il faut, avec INGA, ce n'est pas possible et ce n'est pas économiquement rentable d'électrifier l'ensemble du pays. INGA a la vocation régionale et même continentale. INGA, c'est pour des gros investissements, comme les partenariats avec l'Afrique du Sud, avec le Nigeria, avec d'autres pays. Par contre, pour la RDC, ce sont les solutions décentralisées que l'Atlas des énergies renouvelables est en train de montrer.
Oui, en quoi consiste donc concrètement l'appui du PNUD dans ces projets?
Le PNUD est en train de mobiliser les autorités au plus haut niveau. C'est un processus qui ne doit pas seulement être un processus technique, mais c'est un processus aussi politique. Il faut faire passer les messages clairs que nous sommes dans un contexte difficile, mais il y a beaucoup d'atouts. Et donc, on voudrait vraiment soutenir l'engagement des hommes politiques au plus haut niveau et aussi soutenir les dialogues intersectoriels. L'énergie, c'est multisectoriel, ça dessert plusieurs secteurs. Il faut faciliter aussi ces dialogues entre plusieurs secteurs qui vont bénéficier de l'énergie. Et ça, l'appui du PNUD est très important pour faciliter ces dialogues. L'appui du PNUD également est très important pour aider les pays à développer une stratégie qui va justement lui permettre de voir comment aborder, comment définir ses priorités, les aligner, voir comment les adresser aussi. L'appui du PNUD a jusque-là été assez essentiel, on doit les reconnaître, parce que c'est grâce à l'appui du PNUD que la RDC a été alignée parmi les 6 pays actuellement engagés dans la formulation d'un agenda d'action pays et le programme d'investissement, et les seuls pays francophones à ce jour.
Donc le PNUD fait aussi le plaidoyer pour la RDC.
Bien entendu que nous sommes en train de préparer l'édition 2015 du FODER qui va permettre la validation de cet agenda. La RDC va participer à la COP 21 à Paris sur le changement climatique, et c'est des opportunités immense pour mobiliser les partenaires d'accompagnement. Comme je vous l'ai dit déjà, l'agenda d'Action Pays va être chiffré en milliards. En tout cas, ça va être des milliards, et ces milliards, il faut les mobiliser. Et donc, il faut accompagner les pays dans ces efforts. Si les ambitions sont claires, et si c'est porté politiquement au plus haut niveau, c'est possible effectivement de mobiliser des partenaires.
Monsieur Idesbal de Chinamora, merci.
Je vous remercie également.
Nous démarrons cette page de nouvelles au Nord Kivu, où le Fonds des Nations Unies pour la Population et le Programme des Nations Unies pour le Développement ont remis la semaine dernière un don en matériel roulant et médicaux aux tribunaux et centres de santé dans le cadre d'un projet conjoint de lutte contre la violence sexuelle, selon un communiqué de presse du PNUD daté du 15 septembre. 8 formations médicales parmi les bénéficiaires ont notamment reçu une ambulance médicalisée, des médicaments, des kits post-viol et autres matériels d'une valeur estimée à $500,000 américains. Enfin, lutte contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Cette fois-ci, nous sommes dans l'ouest du pays, au Congo central. 170 personnes ont pris part la semaine dernière à Matadi à la 3e édition du Forum national de mobilisation du monde du travail contre le sida. Le thème de ce forum organisé avec l'appui de l'ONU SIDA était « Élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, contribution des entreprises ».
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Plus de 3000 nouveaux réfugiés centrafricains affluent dans le nord Ubangi. Selon une mission conjointe ACR-CNR, Commission nationale pour les réfugiés, qui s'est rendue sur place, ces réfugiés, en majorité femmes et enfants, fuient les affrontements en RCA et se retrouvent dans un état de dénuement dans plusieurs villages près des Guadolites. D'où le plaidoyer du ACR auprès des bailleurs pour le financement des prises en charge de ces réfugiés. Tous les détails dans cette interview que je vous propose. Simon Anglebert-Loubukou, porte-parole adjoint du ACR-RDC, répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Simon Anglebert-Loubukou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole adjoint au ACR-RDC. Nous l'avons appris, la nouvelle province du Nord Ubangi accueille aujourd'hui 1800 nouveaux réfugiés centrafricains. Comment expliquer ces nouveaux afflux et quelles sont les causes?
Nous avons été informés de l'arrivée des nouveaux réfugiés centrafricains dans l'ancienne province de l'Équateur. Et après vérification, parce que nous avons envoyé une équipe du HCR, une mission conjointe avec la Commission nationale pour les réfugiés et notre partenaire IEDA sur place pour vérifier. Nous avons reçu les informations selon lesquelles plus de 800 nouveaux réfugiés sont arrivés à Mogoro, qui est une localité située à 42 km de Guadolite. D'autres, plus de 1000 sont arrivés à Yébé et à Lembo, on a enregistré 1140 réfugiés. Il y a d'autres réfugiés qui sont arrivés à Vara, qui est une localité située à 6 km de Mogoro. Malheureusement, nous n'avons pas encore les chiffres des réfugiés qui sont arrivés dans cette localité, parce que c'est une localité qui n'est pas très très accessible.
Je parlais de 1800, peut-être que j'ai faussé mes calculs. Au total, on a combien de nouveaux réfugiés centrafricains?
Nous dirons plus de 3000 nouveaux réfugiés centrafricains qui sont arrivés.
Et quelles sont les causes qui les poussent à venir d'une façon assez brusque?
Les réfugiés centrafricains que nos équipes ont rencontrés disent avoir fui les affrontements entre les Anti-Balaka et les Seleka. Et ces réfugiés étaient dans le groupement de Mongbanga.
C'est en Centrafrique.
En Centrafrique, un groupement qui regroupe 6 villages. Donc ils ont fui les affrontements entre les Anti-Balaka et les Seleka.
Dans quel état arrivent-ils ces réfugiés et dans quelles localités sont-ils précisément aujourd'hui?
Les réfugiés qui fuient le groupement de Mongbanga sont pour la plupart des pêcheurs. Ils ont traversé la rivière Ubangi avec leurs pirogues. Il y a essentiellement les femmes et les enfants. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'occasion de prendre quoi que ce soit, ni nourriture, ni articles de première nécessité au moment de la fuite. Donc ils sont arrivés mains vides. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils arrivent dans les villages de Mogoro, de Yébé, de Vara, de Lembo, du côté de la RDC. RDC qui sont pour l'instant hébergés soit dans des familles d'accueil, soit dans les églises de ces villages.
Oui, ce n'est pas pour la première fois que les ACR RDC reçoit les réfugiés centrafricains qui viennent trouver asile en République démocratique du Congo. Comment les ACR et d'autres partenaires, bien entendu, organisent-ils la prise en charge de ces nouveaux réfugiés?
Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est organiser une mission pour aller rencontrer ces réfugiés et les sensibiliser pour qu'ils acceptent d'être relocalisés dans les camps que nous avons dans cette province, essentiellement Bili et Inke, selon leur position. Ça, c'est ce que nous avons fait pour l'instant. Et nous avons demandé à notre partenaire IEDA d'intensifier les monitorings pour avoir plus d'informations par rapport aux arrivées des réfugiés et à leur situation. Et autre chose que nous avons pu faire jusque-là, c'était d'évacuer deux familles de 9 personnes où il y avait des malades. Nous n'avons pas la possibilité de faire plus pour le moment parce que nous avons des problèmes de financement. À ce jour, nous n'avons reçu que 6% des 57 millions de dollars que nous avons demandé au début de cette année pour pouvoir assister les réfugiés centrafricains. Nous avons dépassé maintenant les 100 000 réfugiés centrafricains en République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur et dans la province orientale essentiellement. Mais depuis le début de cette année, comme je disais, nous n'avons pas été financés comme cela se doit pour assister. Et avec les nouveaux réfugiés qui arrivent, selon les informations, il y a d'autres qui arriveraient parce que la situation demeure volatile en République centrafricaine. La situation est vraiment difficile du côté des finances du HCR pour pouvoir bien assister ces réfugiés.
Vous manquez de financement, alors vous dormez sur vos lauriers. Est-ce que vous faites un plaidoyer pour avoir plus de financement parce que la situation est critique? Vous l'avez dit, ces réfugiés centrafricains et notamment les enfants et les femmes arrivent dans un état de dénuement total.
Nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous sommes en train de travailler. Nous avons effectué la mission pour aller voir ces réfugiés, pour les sensibiliser, pour qu'ils acceptent de venir dans les camps des réfugiés de Inke et Bili. Nous sommes en train de travailler avec les très peu de moyens qui ne suffisent plus. Nous continuons à relocaliser les réfugiés centrafricains qui sont arrivés dans le territoire de Bossobolo. À ce jour, nous avons relocalisé plus de 12 000 réfugiés centrafricains. Mais le problème de financement se poursuit. Nous n'avons pas suffisamment d'abris dans les camps pour continuer avec la relocalisation. Nous avons encore des réfugiés qui attendent de rejoindre le camp. La relocalisation continue au fur et à mesure que nous avons les moyens pour construire des nouveaux abris et pouvoir emmener les réfugiés qui sont encore dans les familles d'accueil.
Oui, si je comprends bien, le problème de ces réfugiés centrafricains demeure encore, faute de financement au niveau du ACR. Alors, parlez un peu brièvement de votre collaboration avec les ACR-RCA. Comment vous collaborez pour essayer un peu de gérer ces mouvements de réfugiés centrafricains?
Il est difficile au HCR de gérer les mouvements des réfugiés centrafricains parce que lorsqu'ils fuient leur pays, c'est indépendamment du HCR. Mais nous échangeons des informations entre nous par rapport à la situation là-bas. Si eux, ils en vont d'une situation qui pourrait provoquer la fuite des populations vers la RDC ou vers d'autres pays comme le Tchad et le Cameroun, ils nous informent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons des partenaires qui ont des agents qui font les monitoring pour suivre un peu les mouvements. Mais au-delà de la situation des réfugiés centrafricains, je pourrais vous parler de la collaboration que nous avons eue avec notre bureau de Bangui et les autres bureaux en République centrafricaine avec le rapatriement d'urgence par voie aérienne des réfugiés congolais qui étaient à Zemio, que nous avons commencé le 3 août dernier et que nous avons clôturé il y a une semaine avec le retour de 805 Congolais de la RDC qui étaient à Zemio, qui sont rentrés à Ango dans la province orientale.
805 réfugiés congolais qui sont rentrés au Bercail, donc on ne peut plus parler des réfugiés congolais en Centrafrique pour l'instant.
Le rapatriement est volontaire. Au départ de cette opération, nous avions 628 candidats au rapatriement. Après, nous avons eu 200 demandes. Nous avons pu avoir les moyens pour organiser leur rapatriement. Il y a encore des réfugiés, mais les 805 sont ceux qui ont accepté d'être rapatriés parce que le rapatriement est volontaire.
Est-ce que vous avez un message aux réfugiés centrafricains, population d'accueil, donc aux familles d'accueil qui reçoivent ces réfugiés centrafricains.
Aux réfugiés centrafricains qui ne sont pas encore dans le camp, qu'ils acceptent le principe d'aller dans les camps où ils seront mieux assistés, mais au-delà des réfugiés, aux populations d'accueil de continuer à montrer leur hospitalité pour assister les réfugiés qui sont leurs frères, à ceux qui ont l'habitude de financer les actions humanitaires, le travail du HCR et aux hommes de bonne volonté, ils peuvent venir pour financer les opérations du HCR en faveur des réfugiés centrafricains.
Simon Englebert, je vous remercie.
Merci.
La restauration de l'autorité de l'État dans les territoires d'Irumu et des Mambasa reste le plus grand défi pour le développement de ces entités. Martin Kobler l'a déclaré lundi dernier à Bunia au cours d'une table ronde avec des structures de jeunes et associations féminines de la place. Cette rencontre était initiée dans le but de recueillir le point de vue des participants sur les actions de la mission des Nations Unies au Congo et du gouvernement pour la consolidation de la paix en RDC. Martial Kiza.
Plusieurs villages sont confrontés au problème de l'absence de l'autorité de l'État à Nitouri, a déclaré Martin Kobler qui vient de séjourner pendant 48 heures à Nitouri. Selon les constats qu'il a fait au cours de son passage dimanche à la réserve vers Fona Okapi dans les territoires de Mambasa, beaucoup reste à faire pour la restitution de l'autorité de l'État dans ce patrimoine mondial qui est selon lui sous la menace de Maïmaï Simba. Toutefois, Martin Kobler a salué les efforts des FARDC et de la MONUSCO pour la réduction de la capacité des nuisances des miliciens de la FRPI dans la chefferie de Walindou et de Maïmaï Simba dans le territoire de Mambasa, bien que les défis restent énormes.
La MONUSCO ne peut pas remplacer le gouvernement. Quatre policiers dans tout le territoire de Pukuringi, c'est pas assez. C'est pourquoi restitution de l'autorité de l'État, c'est très important. La police, les FRDC, pour garantir la sécurité pour la population.
Pour que cette autorité de l'État soit rétablie, Martin Kobler estime qu'il faut d'abord recréer la confiance entre les services de sécurité et la population locale.
Créer la confiance de la population avec la police, avec les FRDC, les services de base, on a les écoles, ce sont les stations de santé, c'est très important.
Au cours de cette rencontre, Martin Kobler appelle les jeunes et les associations féminines à se mobiliser pour le développement de leurs entités. Bunia, Martial Kizagamongo, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez plutôt cette question d'un confrère posée à la conférence de presse mercredi dernier à Kinshasa et la réponse de Florence Marshall.
Roger Marley Lukunga, écho de la MP. Je pose donc cette question pour savoir qu'en est-il de la situation de rougeole qui frappait les enfants dans la province de Katanga. A-t-elle évolué ou y a-t-il toujours péril en demeure?
En fin de semaine dernière, on avait 23 000 cas confirmés et 407 décès. Les acteurs humanitaires sont mobilisés afin d'endiguer l'épidémie. Vous vous souvenez, le coordonnateur humanitaire, vous l'avez annoncé ici il y a un mois, plus de 2 millions de dollars, 2,4 millions de dollars ont été débloqués par M. Mamadou Diallo afin de permettre une riposte sur le terrain. Et actuellement, à la fois les Nations Unies, mais aussi les partenaires, les ONG, sont en train de s'activer afin de pouvoir justement utiliser cet argent pour pouvoir permettre une riposte sur le terrain. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut à la fois trouver une réponse immédiate pour endiguer l'épidémie, mais aussi ensuite à plus long terme, et ça se fera avec le gouvernement congolais, assurer des solutions qui permettraient que de telles épidémies ne reviennent pas et qui concernent notamment le renforcement du système de santé. Mais il n'y a pas seulement la rougeole, malheureusement, on note aussi des cas de choléra dans le Maniema, dans le sud Kivu, et avec là aussi une réponse coordonnée des Nations Unies et des ONG. Et le choléra, je vous le rappelle, la cause principale reste le manque d'eau potable. Et à ce jour, c'est la ville de Kindu qui est vraiment très touchée.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Kanish Mukongo Fanikizi, alias Chamboui. Je suis marié, père de 4 enfants. 2 filles, 2 garçons, les 2 garçons sont 2 jumeaux, des beaux petits garçons que j'aime bien, Exaucé Simplice, le grand sœur Hilde et Justice. Je fais l'école primaire à Kananga, dans la province du Kasaï Occidental. Mon école primaire c'était en Sangabantu, dans la commune de Kananga, avant de faire l'école secondaire à l'institut qu'on appelait PIDIS, mais actuel Dutungunuka, voilà. J'ai fait les 2 années à Dutungunuka. Ensuite, je suis allé à l'institut technique commercial Diangata, où j'ai eu mon diplôme d'État, l'année scolaire 94-95. Et puis, j'ai fait les études universitaires à Kananga. Je suis juriste de formation avant de travailler dans de structures locales. Donc, à Kananga, où j'ai travaillé dans une agence d'aviation, à l'agence Mongami, avant d'être recruté comme collaborateur extérieur à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, où j'animais l'émission Chulubapachoch ensemble avec Koch, qui était l'initiateur de cette émission. J'étais en même temps à la RTNC où je jouais au théâtre groupe Mama Bampé, où on m'appelait Demouch, les petits dérangeurs qui étaient dans ce groupe, c'était moi. Je présentais aussi le journal Parler en Chiluba à la RTNC. En même temps, j'animais des magazines de sport ensemble avec les femmes Vite Bilema, Adelika Basuba, Bonsomani Achiombo, Basile Bakumban et les autres à la RTNC Kananga. Là, c'était en 1998 avant d'être recruté à la radio Kapi. Et là, j'ai commencé au mois de septembre 2002. Donc, je peux dire que je suis parmi les anciens de Radio Kapi. Avant d'être limité de Kananga, ensemble avec Élisée Chikota, à Kinshasa, où je travaille à Radio Kapi depuis 2004 jusqu'à ce jour, je me réveille à 2h20, mon alarme me réveille, puis le véhicule de travail me prend à partir de 3h, donc 2h40, 3h juste, j'arrive au boulot pour préparer les informations sportives. Je pense que tous les auditeurs qui connaissent bien Kanish Mukongo savent que je commence mon intervention à partir de 5h13, ensuite 5h43, 6h13, 6h43, 7h10, 7h, 8h10, 12h, je suis du desk des sports, je viens pour récolter les informations et je prépare les informations que je vais offrir ou donner aux auditeurs. Les dimanches, je suis tout le temps sur le terrain, là c'est les stades, les samedis, les dimanches, je suis tout le temps au stade pour préparer, faire les reportages en direct pour les auditeurs de Radio Kapi qui nous écoutent, sinon je suis à la rédaction où nous préparons les magazines des dimanches. J'ai parlé des études, j'ai dit que j'étais juriste de formation, ensuite j'ai suivi quelques formations en journalisme à la RTNC, Radio Kapi aussi qui nous a rendu un très bon service, on a suivi des formations en journalisme, mais pour l'instant j'étudie également, je suis à l'Université Pédagogique Nationale, UPEN, où je suis en sciences de l'information et communication, je passe en G3, j'ai accepté de revenir et reprendre, et là c'est pour faire les études de ce que je pratique. Sur mon divertissement, j'aime bien la musique congolaise, la rumba congolaise, et j'aime bien la musique de Koffi Olomide. Je connais tous les albums de Koffi Olomide, certains qu'il a même sorti pendant que j'étais encore petit, alors que j'avais 3 ans à l'époque. Une chanson de Koffi, il y en a beaucoup. Les chansons tournent dans ma tête ici, je ne sais pas. Donc c'est parmi les meilleures chansons de Koffi Olomide. J'aime bien les sports comme tout le temps. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans ma vie. J'aime aussi la lecture. Je suis un grand lecteur de romans. Et les autres livres, je lis les romans policiers surtout, les romans d'espionnage, contre-espionnage, le roman Masque d'Agatha Christie. J'aime bien les romans de Gérald Devilliers, le fait qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. J'aime aussi le cinéma, les séries, la télévision. J'aime beaucoup. Oh, ma famille occupe la première place dans ma vie. Surtout les enfants, je les considère comme mes petits frères. C'est vrai que le boulot me prend beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps de rester beaucoup de temps à côté de mes enfants. Mais je fais un effort pour être un bon parent et être un parent modèle. Après Radio Kapi, personnellement en privé, je compte en tout cas monter une bibliothèque. Un endroit de lecture où je peux recevoir des gens, être à côté des gens, une salle de jeu, être à côté des gens parce que j'aime bien blaguer. Les collègues qui me connaissent bien le savent. Je blague beaucoup, je rigole. J'aime bien être entouré de gens pour discuter, échanger, parler sport, parler football. C'est un jour, si j'ai des moyens, pourquoi pas devenir indulgent des clubs de football, encadrer la jeunesse, être autour de la jeunesse, monter une bibliothèque pour que les gens arrivent, que je sois toujours parmi eux pour lire, échanger. C'est tout ce que j'aime. Un grand journaliste sportif, oui. C'est ça que j'ai toujours fait chaque jour pour me documenter, apprendre. Un grand journaliste sportif, oui, je souhaite le devenir et l'être d'ailleurs. Mais journaliste politique, j'aime pas la politique en tout cas. Merci beaucoup.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Un seul rendez-vous dans votre agenda. Notez que ce lundi 21 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de la paix. Et en marge de cette journée à Kinshasa, la MONUSCO, à travers son unité à Autriche, organise à cette date une conférence pour 150 étudiants venant d'une dizaine d'institutions universitaires de la capitale. Cette conférence aura lieu à l'hôtel Vénus sous le thème « L'ONU et les défis de la restauration de l'autorité de l'État en RDC ». C'est la fin de cette émission coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco, Honoré Missenga au reportage et moi c'est Nadine Foulard qui vous l'a présenté. Vous pouvez retrouver ces numéros sur le site de Radio Capi www.radiocapi.net. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Excellent dimanche à tous.